Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 16 avril 2021 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce saison 2 épisode 78. Il fait beau mais très froid même dans notre petit studio. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien accompagné de l'intraçable Laetitia avec ou sans cookie, avec IP, avec fingerprinting. Vous pouvez tout essayer, vous n'arriverez pas, mais elle est là à côté de nous pour ce superbe épisode. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles et aussi sur YouTube. Au sommaire de cette émission, Alibaba qui est sévèrement réprimandé, les French Days décalés et des Yeezy hors de prix. On prendra un café avec notre poteau Nico. Souvenez-vous, il était venu dans l'épisode 74. Nico, c'est Nico du Retailoscope et cette semaine, il va nous parler d'un féroce concurrent de L'Oréal en Asie. Et surtout, roulement de tambour, on l'a pas dans notre petite machine, on va passer le mic en exclu mondial à Vincent Gauche, qui est le cofondateur de Potion. Vincent nous parlera cookie-less, je sais pas le dire autrement que cookie-less en fait, désolé pour les puristes. Et surtout, Vincent nous annoncera une grosse info en exclu, restez jusqu'au bout. Et comme à chaque fin d'émission, on terminera avec du fun et on vous challengera avec non pas un, non pas deux, mais trois jeux. Adrien en a préparé un et moi j'en ai préparé deux. Adrien.
Laetitia. Prêt.
Synchronisation des montres.
Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas, mais qu'il ne fallait surtout pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
L'Occitane déploie le vrac dans ses boutiques.
Ascendia, la joint venture entre La Poste et La Poste Suisse, acquiert à 100% la société Cross Border eShop World.
La plateforme de vente en ligne StockX, alors je pense qu'on dit Stocks plutôt, lève 255 millions de dollars pour une valo estimée à 3,8 milliards de dollars.
Yandex, le moteur de recherche russe bien connu là-bas, lance son service de livraison rapide en France.
Après les magasins Galeries Lafayette, Gosport, Camailleux et La Grande Récré, le groupe FIB Fib reprendrait Gap France.
Système U et Carrefour stoppent l'impression systématique des tickets de caisse.
Les franchises de printemps sont reportées, initialement prévues pour très bientôt, du 24 au 8 mai. Eh bien, ils seraient reportés à la fin mai.
Nike se lance dans le reconditionné avec ses propres baskets. Et je pense que ça va faire beaucoup de bruit. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Et enfin, la news what the fuck de la semaine. Cette semaine, Laetitia.
C'est toujours Nike. Une paire de baskets Nike Air Yeezy. Donc, vous savez, les Yeezy, celles qui sont designées par Kanye West. Et donc, portées par Kanye West. Cette paire est proposée chez Just Buy. Vous savez, c'est le truc de vente aux enchères. Et donc, ils ont estimé la dite paire à plus d'un million dollars. Voilà, donc d'un côté on veut reconditionner, puis d'un côté on veut vendre du caoutchouc à 1 million de dollars.
Et qui va l'acheter? C'est une estimation, c'est ça?
Ouais, c'est une estimation exactement, donc c'est pas dit que ça partira.
On l'achètera en bitcoin alors. Quoi de neuf chez nous? C'est la rubrique où on parle de nous, ce qui se passe chez nous en rapport avec l'e-commerce. Laetitia, quoi de neuf chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il s'est passé un truc de ouf. Non, il s'est rien passé de ouf. J'ai lu un livre. Là, tu dois faire ta tête.
Quoi? Tu lis
des
livres?
Voilà. Ouais, bon, j'ai terminé un livre. Alors, j'adore Delphine de Vigan qui, d'habitude, ne fait pas de romans sur le digital. Et là, son dernier roman qui s'intitule « Les enfants sont rois » parle des enfants, justement, mais des enfants qui sont sur les réseaux sociaux, les enfants influenceurs. Et franchement, ce livre m'a vraiment interpellée parce qu'elle retrace très très bien depuis quand tout cela a commencé. Donc bien sûr, tout a démarré en France avec la télé-réalité et notamment avec le Loft et avec Loana. Et dans son roman, la protagoniste, elle est fan de télé-réalité. Elle a à peine 18 ans lorsque Loana remporte le Loft, et elle a un objectif en tête, c'est d'être connue. Donc elle fait des castings, ça marche pas trop, elle est d'une personnalité un peu quelconque. Sauf que l'avènement des réseaux sociaux, et notamment d'Instagram et de YouTube, la plateforme sur laquelle nous diffusons en ce moment le podcast, lui donne des idées. Et chez elle construit un mini studio et se dit « Oh tiens, si je mettais en avant mes enfants, si je les mettais en scène. » Et d'un petit jeu tout simple où elle filme ses enfants, ça devient un vrai marché, une vraie industrie. Et ses enfants sont fatigués, sont exploités. Et je ne vous dévoile pas la fin. Moi, tout ce que ça m'a inspiré, c'est que bah, en fait, tout le monde fait ça. Moi, en tout cas, je ne le fais jamais. Vous ne verrez jamais un seul cheveu de mes enfants sur les réseaux sociaux. Mais c'est très vite, en fait. On peut très vite voilà, se dire « Oh, bah, c'est mignon, là, mon enfant, il vient de faire ses premiers pas, il vient de faire son premier pipi. Oh, allez, je vais le mettre sur les réseaux sociaux. » Et puis, bah, vous n'imaginez pas tout ce qui peut se passer derrière. Bon, je n'ai pas envie de faire flipper
tout
le monde.
C'est de la fiction, le bouquin.
C'est de la fiction, mais c'est très documenté. Okay. C'est très documenté.
Il s'inspire des trucs Swan et compagnie.
Exactement.
Là.
Ouais. Et surtout, elle fait un bond en avant, du coup, 20 ans après, parce qu'il se passe un événement dramatique, et 20 ans après, elle fait un...
Tu vas nous spoiler le livre,
Non. Elle fait un... Comment est-ce qu'on dit ça? Elle fait une projection de ce qu'est le futur numérique, notamment pour ses enfants qui sont surexposés et qui développent tous des troubles sociaux.
Ça se finit en Black Mirror,
quoi. Ouais, un peu. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir, notamment sur la législation sur les enfants influenceurs et sur les enfants mineurs. Et du coup, j'ai essayé un petit peu de regarder. Il y a une loi là qui est passée 1er avril. C'est un peu passé inaperçu. Et en plus, c'est hyper limite. Donc, en gros, c'est blocage des fonds des enfants jusqu'à la majorité à la Caisse des dépôts. Bon, bah, ça, c'est comme les enfants qui sont mannequins. Une autorisation préalable. Donc, en gros, il faut que les parents montent un dossier. Voilà, mais les millions de parents youtubeurs, je les vois très mal monter des dossiers. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils encourent? Bah, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une police là qui regarde sur YouTube et dit: Ah, tiens, lui, est-ce qu'il a déposé son dossier préalable où il dit que ses deux enfants vont parler un droit à l'oubli. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, mais il faut attendre que l'enfant soit majeur pour pouvoir demander ce droit à l'oubli et du coup, bah, se réapproprier toutes les images et demander ce que tout soit effacé. Et puis après, moi, je trouve qu'il y a un gros trouble. C'est très, très opaque sur la notion de travail et de plaisir, puisque souvent, les enfants, les parents disent « Mais il prend plaisir, il aime bien, regardez, il est heureux. » Oui, enfin non, t'es un peu en train d'exploiter ton enfant et voilà. Donc moi, je ne sais pas, s'il y a un avocat spécialisé sur les enfants influenceurs, on serait ravis de l'avoir parce que vraiment, ça m'a chamboulé. Et surtout, moi, je me suis interrogée sur... c'est du e-commerce que font ces gens-là, c'est du placement de produits. Et puis, qui sont ces charmants petits influenceurs? Ce sont des enfants. Voilà, très triste comme news.
Merci pour cette recommandation, Laetitia. J'aimerais pas regarder ta bibliothèque avec tous les livres que tu lis. Parce que moi, si un livre comme ça, je le commence, mais je le termine pas.
Je l'ai fini en 3 jours, même pas.
Moi, ah ouais, donc tu l'as dévoré.
Il fait 350 pages.
Pour moi, c'est un peu plus positif, je dirais. Parce que, comme tu sais, les UK ont rouvert. Et dans la boîte pour laquelle je travaille, on sent que ça y est, il y a un vent de joie, de bonheur qui est en train d'arriver. Les terrasses rouvrent, les personnes ont le sourire, ça reprend doucement et donc même ça se ressent dans l'activité où les gens ils reprennent. Il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être lancés ou qui se lancent. Donc c'est plutôt une bonne dynamique et agréable à regarder. Et j'ai hâte qu'on ressente ça également en France.
C'est pas pour tout de suite.
Oh, sois pas pessimiste.
Quoi de neuf chez vous? Quoi de neuf chez vous? C'est la rubrique où on lit vos messages et vos commentaires. Et puis, nous, on y répond. Et cette semaine, Adrien me dit dans l'oreillette qu'on a reçu de nouveaux commentaires. Et promis, je ne les ai pas regardés, donc je vais les découvrir en même temps que vous.
Déjà, merci beaucoup parce qu'en fait, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas demandé de laisser des commentaires.
On demande à chaque fin d'émission.
Ouais, c'est vrai, mais sans insister, on va dire. Et donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a reçu un paquet de commentaires. Enfin, on en a reçu 3, donc c'est vraiment pas mal. Donc, c'est sur Apple, si vous avez un iPhone, vous pouvez laisser un commentaire. Donc, le premier, c'est de Elise Line. Titre, enfin un podcast dynamique, super podcast, dynamique et de qualité. Je recommande. Merci beaucoup, Elisa.
Merci, Elise.
J'ai dit Elise, c'est Elisa.
Ah,
on a ensuite Ginny D qui nous laisse, qui nous dit comme titre Focus Retail avec Pixie Conseil Interview. Merci à Laetitia et Adrien pour cet entretien avec Noria, présidente associée du cabinet Pixie Conseil. Un entretien rythmé, détendu, direct, pro et surtout très instructif. Continuez comme ça, ne changez rien. Merci,
merci
beaucoup, Ginny. Et enfin, Pixis 1, je me demande...
On se demande qui c'est.
Qui
peut-être que c'est le vrai groupe, les Pixis. Hein.
Un podcast qui vaut le détour. Et enfin, le commentaire, un duo de passionnés, Adrien et Laetitia, avec un sens aigu de l'analyse du marché de l'e-commerce et son écosystème, qu'ils prennent plaisir à partager, à vulgariser et à diffuser avec beaucoup de pragmatisme et de sincérité, à écouter et à suivre. Thumb up, comment on dit là, pouce vers le haut et puis, biceps, muscle. Donc merci beaucoup.
Génial,
merci. Donc merci beaucoup de ces commentaires. N'hésitez
merci.
Pas vous pouvez nous contacter via les notes
d'amour
de l'émission en laissant des commentaires ou en envoyant un email ou un LinkedIn. On répond volontiers. Merci beaucoup.
Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou consommateur, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Amazon. Adrien, de quoi veux-tu nous parler ?
Déjà, je me marre parce que je vois les commentaires dans le chat et Armand fait marrer. Non, il dit « Ok, je vais aller courir m'acheter des iPhones pour laisser des notes, tu vois, en mode ironique. » Je trouve ça très, très drôle. Écoute, pour Amazon, pour Amazon, donc cette semaine, il y a toujours beaucoup de news sur Amazon. On essaie de sélectionner celles qui nous semblent intéressantes et pertinentes. Il y en a une qu'on avait couvert il y a quelques semaines, quelques mois, c'est au sujet de la pub, ce que pèse la pub pour Amazon. Et là, ils viennent de franchir un cap parce qu'ils ont communiqué sur l'année dernière, les performances qu'ils ont fait en 2020, et ils dépassent les 10% du marché de la pub aux États-Unis. Donc, c'est une étude e-marketer qui vient d'être publiée. Amazon, ils étaient en 2019 à 7,8%, 2020, 10,3% comme on vient de le dire, et on compare au duopole presque en face. Tu sais qui est en face, ceux qui trustent la pub?
C'est Walmart?
Google et Facebook. En régime. T'as Google qui est à 28,9% et Facebook qui est à 25,2%. Donc pour le moment, Google et Facebook, ils sont vraiment très en avance. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Amazon progresse très, très vite et très fortement. Google a tendance à plutôt perdre des pertes de marché et Facebook stagne. La raison pour laquelle je voulais en parler, parce qu'on pourrait se dire c'est de la pub, c'est pas directement de l'e-commerce, et en fait comme on le voit, c'est complètement lié. Amazon, c'est un endroit idéal pour faire de la pub ou certaines pubs, parce que le client ou le consommateur, il est très engagé, il y a de la performance très élevée. Et ce qu'on veut, lié avec la disparition des cookies, avec le fait qu'on va avoir moins d'informations sur le client, quand tu restes dans ton écosystème, tu connais très bien ton client. Donc, tu connais ton client, parce que t'es dans l'écosystème Amazon, sur le site, tu sais qu'il veut acheter quelque chose, tu lui proposes quelque chose, il est très ouvert et enclin à acheter quelque chose. Du coup, là, tous les analystes, et on le voyait également avec eMarketer, tendent à dire que pour le moment, c'est encore le troisième et derrière, mais dans quelques années, ça va aller vite. Amazon va continuer sa progression et je pense qu'Amazon n'a pas fini d'investir et de proposer des outils pour les annonceurs.
Donc, ce que tu es en train de dire, du coup, c'est pour ça que je t'ai répondu à Walmart, tu étais à côté de la plaque, c'est que Amazon est en train de se transformer en régie pub.
Ils pèsent déjà énormément, donc oui, mais en plus, même Walmart, c'est pas du tout exclu.
Oui,
je crois qu'ils font des choses d'ailleurs, je sais plus s'ils font des choses ou pas, mais ce serait pas du tout exclu qu'ils proposaient également sur leur site de pouvoir faire de la pub. Donc okay. on va suivre ça, et puis je trouvais ça super intéressant cette stat, de voir qu'Amazon continue à se développer, et la pub est directement, enfin in fine, l'objectif de la pub c'est de vendre. Donc quand tu as un site qui peut, ou un écosystème qui peut te proposer de faire les deux, là où un Facebook c'est un peu plus difficile, ils essaient avec des outils de vendre, mais c'est pas encore ça. Et Google, là, ils étaient tout au début du search, mais
c'est, ouais, ils essayent. On peut imaginer qu'Amazon puisse faire de la pub vocale, surtout leurs devices vocaux aussi.
On verra bien ce qu'ils vont faire, mais effectivement, avec tous les devices ou les appareils qu'ils ont, ils ont une empreinte chez les consommateurs qui est vraiment importante, quoi.
Allez, c'est la rubrique Un café avec. Et cette semaine, on prend un café avec Nicolas Rebet de Retailoscope. Souvenez-vous, il était déjà venu dans l'épisode 74, il nous avait parlé d'un concept store allemand. Et cette semaine, il revient avec un concept store asiatique qui fait trembler le leader de la cosmétique et de la beauté, L'Oréal. Et un café avec cette semaine, on retrouve notre chroniqueur préféré, on retrouve Nico du Retailoscope. Salut Nico.
Bonjour Nicolas.
Oh, salut à toi, bon salut Adrien, salut Laetitia, j'espère que vous allez bien.
Ça va bien, merci. Désolé, moi je t'appelle Nico, c'est plus simple dans mon esprit. Nicolas, cette semaine tu voulais nous parler d'un acteur de la cosmétique et de la beauty en Asie qui fait trembler L'Oréal. De qui veux-tu nous parler ?
Exactement. Cette semaine, on part à Chengdu, en Chine, suite à l'ouverture du flagship store de Perfect Diary. En fait, Perfect Diary, pour replacer un petit peu le contexte, c'est une marque qui a été créée sur Internet, une marque de cosmétiques, et qui a une croissance absolument pharaonique en Chine, et qui aujourd'hui fait trembler les plus grandes maisons européennes et américaines sur la beauté dans le pays de la Chine. L'idée, c'est qu'en fait, ils se sont développés déjà sur Internet avec une très, 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 très forte communauté de clients. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est à la fois le mix marketing relationnel et le retail en soi. Si on regarde la boutique de Chengdu, qui a été un des flagships hein, de la marque, on voit qu'il y a plusieurs salles à l'intérieur, il y a plusieurs ambiances. C'est une marque qui, au niveau pricing, est plutôt milieu de gamme. C'est ni vraiment accessible et pas cher, ni vraiment une marque de luxe. Mais en tout cas, l'environnement est hyper premium. Il y a une volonté de faire vivre aux clients une expérience assez incroyable avec des salles roses, des salles grises, un café complètement violet. Enfin, il y a vraiment, il faut voir vraiment les photos du point de vente pour qu'on se rende compte. Mais en tout cas, il y a une scénarisation qui est énorme par rapport à ce point de vente. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la dynamique retail de la marque, qui est certes née sur Internet, est toujours hyper importante parce qu'ils ont prévu d'ouvrir jusqu'à 600 magasins dans les 3 prochaines années. Ils en ont déjà 200 en réseau, donc ce qui est assez important. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la fusion, hein, comme je le disais, entre les parcours clients physiques et digitaux, et dans lequel les clients sont amenés via WeChat ou d'autres réseaux sociaux chinois à interagir avec la marque en amont de la visite. Et comment ça se passe ? Ça se passe avec des petits groupes de clients. Il y a des petits groupes de 500 clients. En fait, la marque développe. Comme ça, les clients peuvent parler entre eux. C'est pas des groupes énorme où les gens peuvent facilement prendre la parole et échanger. Et ils sont aussi animés par des influenceurs qui animent comme ça individuellement plusieurs groupes.
Nicolas, quand tu parlais tout à l'heure des magasins roses, etc., c'est parce que c'est pensé pour mettre ensuite sur les réseaux sociaux ? Tu te prends en photo à l'intérieur du magasin ou c'est juste pour recréer des ambiances ?
Il y a les deux. Non, il y a les deux parce qu'on est sur de la Gen Z. Hein. De toute façon, c'est une marque qui vise la Gen Z chinoise, qui est hyper friand de tout ce qui est consommation de réseaux sociaux. Donc, ça aide aussi à diffuser l'énorme image de la marque aujourd'hui sur cette cible-là. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que la boutique, notamment de Chengdu, sert pour faire du live stream shopping. Donc oui, il y a une surutilisation, j'ai envie de dire, du point de vente sur les réseaux par la suite.
Et le design pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, est-ce qu'on peut rapprocher ça à un Apple Store, c'est-à-dire très minimaliste, éclairé, on joue avec les lumières, ou c'est même pas un Apple Store, mais Laetitia, il y aurait quoi comme exemple en France où, ou toi, Nicolas, ce serait quoi le meilleur exemple ?
Non, moi, j'avais Apple en tête, mais surtout, j'avais une autre marque de cosmétiques, qui est la marque Glossier. Alors, on n'est pas vraiment sur ce côté très épuré, mais Glossier propose, si je ne me trompe pas, aussi des univers très instagrammables, très peu de produits au final, et aussi un prix assez attractif, mais on est quand même dans une expérience en boutique assez, assez importante. En tout cas, moi, j'avais été dans la boutique de Londres et là, ce que tu me racontes, ça me fait automatiquement penser à Glossier.
C'est effectivement un Glossier chinois. On pourrait voir ça comme un Glossier chinois, clairement. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est leur capacité à animer différemment de Glossier, pour le coup, leurs clients via ces petits groupes, notamment sur WeChat.
Ouais. Ouais, j'aime bien, Nicolas, quand tu dis petit groupe et que tu associes petit groupe à 500 personnes.
Pour la Chine, 500,
c'est
tout petit, 500 personnes.
C'est tellement drôle. Mais d'un autre côté, c'est tellement malin de se dire on va faire des micro-communautés ou des petites cohortes pour utiliser le mot à la mode et d'animer ça. Et tu as utilisé, Laetitia, en intro, une punchline en disant qu'ils font du mal à L'Oréal ou en tout cas le concurrent. Dans quelle mesure c'est vrai, ça ? Ils sont en très forte croissance, ils commencent à faire beaucoup de revenus, ils vont à l'international. Enfin, dans quelle mesure c'est vraiment, ça peut être un concurrent d'un L'Oréal ou autre ?
Sur une journée comme la journée des célibataires, ils ont réussi quand même à dépasser les 14 millions de dollars sur une journée de vente. Ça correspond aujourd'hui à la troisième marque en chiffre d'affaires en Chine sur le make-up. Donc, c'est vraiment, ils ont réussi à se truster quand même le podium en peu de temps.
Et tu vois qu'ils ont copié des choses qui existent chez nous ou pas. Et deuxième question, quid de l'international ?
Alors, je réponds déjà à l'international. Aujourd'hui, Perfect Diary n'est pas présent à l'étranger, hors Chine. Cependant, il est coté à New York. Donc, ça montre aussi qu'ils ont des velléités d'expansion internationale relativement fortes à peut-être moyen terme. Il y a peut-être une boutique en Corée, mais en tout cas, ils sont vraiment pour l'instant focus sur la Chine. Est-ce qu'ils ont copié ? J'ai envie de dire oui et non, parce que tout le monde le fait, en fait. Contrairement à des marques peut-être d'électronique où la ressemblance est parfois très flagrante, là, dans l'univers cosmétique, bon, utiliser du rose, tout le monde le fait, utiliser des belles boutiques, tout le monde le fait. Enfin, il y a moins de côtés distinction qui peuvent naître par rapport à l'électronique.
Nicolas, j'ai une question. Est-ce que tu sais qui se cache derrière Perfect Diary ? Est-ce que c'est un géant de l'e-commerce ou du retail chinois, ou est-ce que c'est un peu le slip français, voilà, des gens sortis d'école, des jeunes qui ont lancé leur DNVB ?
Alors, c'est à la base une DNVB. Hein. C'est pas, je ne sais pas quel est le nom du créateur de Perfect Diary, mais en tout cas, c'est à la base une petite boîte qui a énormément grossi.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Nicolas. Merci, Nicolas. Autre chose à rajouter sur Perfect Diary ?
Oui, c'est vraiment un acteur à suivre. C'est à la fois pour son activation de la Gen Z chinoise en termes de cosmétiques et d'expansion après internationale, parce que c'est le premier leader qui émerge du marché chinois. Jusqu'à présent, on n'en connaissait pas. C'était les marques européennes et américaines qui investissaient ce marché-là. Là, ça va être l'inverse, comme c'est déjà le cas dans de nombreux marchés.
Tu penses qu'ils vont arriver en Europe rapidement ? Parce que c'est un supermarché pour eux, pour le coup, non ?
Je pense que dans peu de temps, oui, on va au moins avoir quelques points de vente de test, peut-être, à Londres, à Paris ou à New York, même sur un marché américain.
Et ça serait typiquement dans des flagships, peut-être, et dans des endroits très, très cotés ? C'est ce
Bien
genre
sûr.
De positionnement ?
Je pense, oui, ça me fait un peu penser quand même à l'extension de Huawei hein, qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, on voit leur beau magasin, il faut quand même le reconnaître. Notamment à Paris ou à Londres.
Et Nicolas, est-ce que tu penses que tu parles de téléphonie, tu parles de cosmétiques, est-ce qu'il y a d'autres secteurs où tu penses que des acteurs chinois vont un peu faire trembler nos gros acteurs à nous, du luxe par exemple, ou je sais pas, du vin, moi je vois souvent des choses passer autour du vin, je vois pas beaucoup autour du luxe, mais je me dis les Chinois maintenant ils sont en train de créer leur propre référentiel en fait.
Tout à fait. En fait, ils sont très intelligents parce qu'ils font ça de façon locale au départ. Ils lancent leur marque. Quand ça marche bien, quand ils sont sûrs que ça marche bien en Chine, ils l'exportent. Le vin, il y a de nombreuses initiatives qui commencent vraiment à fonctionner hein, dans le secteur. On n'a encore pas de vin chinois dans nos étals, mais on peut penser qu'ils vont commencer par certains autres marchés que en particulier la France, où bon, qui est quand même trustée par une production locale. Mais certains marchés comme les US pourraient être intéressés, pourquoi pas, ou l'Asie aussi du Sud-Est, qui consomme aujourd'hui pas beaucoup de vin, mais des spiritueux, et qui là aussi pourraient commencer à être convertis. Donc oui, on peut, ça pourrait arriver. Il y a l'automobile, hein, moi c'est vraiment un autre marché que je regarde énormément. On n'est pas sur le même tarif. Mais en tout cas, soit des marques chinoises, soit des marques françaises ou européennes qui fabriquent en Chine et qui rapportent leur véhicule initialement conçu pour la Chine en France, c'est le cas de Citroën.
Merci beaucoup Nicolas pour nous avoir parlé de cette belle enseigne Perfect Diary qu'on va suivre, et quand on la verra arriver en Europe, on saura qu'on l'a entendu par toi en premier. On se retrouve très vite pour avoir d'autres scoops ou d'autres visions de ce qui se passe dans le retail. Comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus ? T'as un blog, un podcast, c'est ça ?
Retailoscope.fr et sur la page LinkedIn de Retailoscope.
Et puis super, dans le podcast Le Café d'e-commerce de manière récurrente maintenant.
Régulière,
exactement.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Nicolas. Ciao,
à
ciao.
À très bientôt, merci.
Ça a changé là, non ?
Ouais. Okay. Non, si, c'était le même, je crois.
Ah bon ?
Mais comme t'as moins l'habitude parce qu'on le fait en post-prod, tu
viens de faire. Eh ben, c'est Retour vers le futur, Game of Thrones ou je sais.
Non, c'est bien
quoi.
Retour vers le futur, c'est ça.
Ah oui ! Ouais, mais façon Game of Thrones à la harpe et au clavecin. Ok, donc Retour vers le futur. C'est la rubrique où on fait un bond d'un an en arrière pour faire un suivi sur les news marquantes de l'époque. On confronte nos prédictions, souvent fausses, et nos analyses. Et puis, on vous en fait part. Allez, on monte dans la DeLorean et c'est parti ! Et puis, il y a un an, pile poil, on recevait qui, Adrien ?
On recevait Alexandre Alves directement du Québec. C'était l'épisode 36 du 16 avril dernier. on annonçait le lancement du groupe WhatsApp. Et donc aujourd'hui...
Déjà ?
Ouais, et puis un an plus tard, donc aujourd'hui, on est 95 personnes. Il faut qu'on arrive à 100. Non, il y a une personne qui s'est arrivée ce matin. Donc je crois qu'on est 96. On est presque 100 personnes. On parle de sujets tels que le dropshipping, les cookies, Amazon, le paiement. Il y a plein de sujets.
Le recrutement. On a eu recrutement, un sujet.
Ouais, en tout cas, ce que je trouve super sympa, c'est que c'est très animé. Il y a beaucoup d'interactions. Et donc, on vous invite vraiment à rejoindre cette petite communauté sur le WhatsApp. Il y avait des petits problèmes de modération au départ. Enfin, on recevait de spam plutôt. On a fixé ça avec un petit formulaire. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Et donc, on est très content de cette initiative qu'on avait lancée il y a tout juste un an. On évoquait également, Laetitia, Amazon qui formait ses portes. Ils avaient annoncé ça le 16 avril. Il disait c'était pour 4 jours, donc on se souvient parce qu'il fallait vendre que des produits essentiels, etc. Tu te souviens, ils ont été fermés combien de temps ?
Au moins 2 semaines ou 3 semaines.
Eh bien écoute, au début c'était pour 4 jours, ensuite pour 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et plus d'un mois. Ils ont réouvert le 19 mai.
J'ai réussi à vivre sans Amazon 1 mois.
C'est assez fou parce que sur le coup c'était aussi un running gag où à chaque fois ils repoussaient.
Non, par contre tu pouvais commander, mais c'était les plateformes françaises.
Les entrepôts français étaient fermés. Tu pouvais faire livrer de l'Espagne,
Allemagne,
etc.
Je sais pas quoi, moi j'avais reçu un truc d'Allemagne.
Donc, tu pourrais toujours recevoir certaines choses, mais les entrepôts français étaient fermés et c'est juste fou de se dire ça, surtout qu'ensuite, ça a fait beaucoup de bruit à l'international. Quand on y pense, Amazon ferme plus d'un mois ses entrepôts en France, c'est fou. On avait également Blablacar qui lançait une application pour favoriser l'entraide. Tu te souviens comment ça s'appelait ? Le nom était amusant.
Blablacar ?
Bah presque. Oh, il faudrait que tu ailles bosser chez eux parce que ça aurait été pour le coup, ça aurait été joli.
Moi, j'aurais dit
non,
ça.
Non, c'était Blabla Help. Et Blabla Help, c'était une application qui permettait aux membres qui ne pouvaient pas sortir de faire leurs courses pour trouver d'autres personnes qui pouvaient faire leurs courses à leur place autour de chez eux.
Qu'est-ce que c'est devenu toute cette solidarité d'entendre?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait plusieurs semaines que je vois les choses et que je fais un feedback un an plus tard. Ils ont tous fermé. Il y avait Mano Mano aussi qui avait fait ça, qui avait fermé. Mais bon, parce que ça s'y prête moins, ou ça y est, on s'est réadapté. Et il y avait également. C'était une date très importante, Laetitia, parce que ce jour-là, on a utilisé une expression que tu as ensuite utilisée pendant presque 10 mois. C'est Hermès qui rouvrait sa boutique en Chine et qui, le premier jour, avait vendu pour 2,7 millions de dollars.
Revenge spending.
Exactement. Ouais. C'était ce concept-là où les personnes, elles voulaient se venger un petit peu et retourner en magasin. Et ça a été surutilisé ensuite, cette terminologie. Mais en tout cas, ça a donné un petit peu d'espoir sur le monde d'après, parce qu'on était complètement là, le sol commençait ça se fissurer en dessous de nous. Et donc voilà, donc pas mal de news. On était vraiment en pleine incertitude dans cette pandémie. Et puis l'année dernière, numéro 36, on s'était amusé, comme à chaque épisode, on vous dévoile un petit truc, on s'était amusé à placer deux mots. Et donc le mot de Laetitia, c'était chaussette. On vous laisse réécouter l'épisode et trouver où est-ce qu'elle le place. Et le mien, c'était crochet. Donc voilà pour l'épisode 36 de l'année dernière.
China Zoom, la rubrique qui met la Chine sur le devant de la scène. Et cette semaine, on va parler de Alibaba qui s'est fait bien réprimander.
Alors, je ne sais pas si on va l'appeler China Zoom, mais on n'a pas encore fait le conseil de classe et pour décider de manière unanime. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, pour être un peu plus sérieux ? C'est la Chine qui a infligé une amende de 2,7 milliards de dollars à Alibaba qui n'aurait pas respecté les règles anti-monopole. Et ça montre, c'est un signe fort du gouvernement qui signe la reprise en main des géants de la tech par Pékin. Moi, ces dernières années, j'avais vraiment l'impression, avant le podcast, on va dire, quand j'étais moins actif à regarder l'écosystème, qu'ils travaillaient main dans la main et qu'en fait, ces grandes sociétés tech, elles faisaient partie du gouvernement. Et on se rend compte que non, et qu'il ne faut pas les laisser prendre trop de poids, à l'instar des US avec des Facebook et compagnie qui ont une influence qui dépasse les frontières. Alibaba, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Il est notamment accusé de forcer les marchands qui vendent sur ses plateformes Taobao et Tmall à ne pas collaborer avec les concurrents. Et du coup, les autorités chinoises, là, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils ont mis en place des lois, des réglementations pour réguler ce secteur. On se souvient des choses autour des données de consommateurs. Ça nous avait étonné, on l'avait couvert. Tout ce qui va être trait où on protège le consommateur et les données qu'ils vont partager. Et du coup, ça limite un petit peu le pouvoir de ces géants. On avait également parlé de l'annulation de l'introduction en bourse. Ça fait énormément de bruit de la filière financière Ant Group en novembre dernier. Et donc, c'est pas anodin parce qu'Alibaba, c'est 30% du e-commerce en Chine. C'est le premier. On tape pour l'exemple, mais ça signifie que tous les autres, les Baidu, Tencent, Xiaomi, vont devoir faire attention parce que là, c'est toutes ces grosses sociétés qui vont devoir regarder ce qui se passe. La fête est finie. On sonne la cloche et maintenant, on rentre dans le rang. pour Alibaba. Je serais curieux d'avoir, de reparler, mais bon, enfin, d'avoir des insights sur Alibaba, parce qu'en ce moment, avec l'impact TVA qui arrive en Europe, où l'importation va avoir un vrai impact, on va devoir déclarer la TVA, donc les prix vont, ouais, ça va être moins attractif de commander pour nous sur AliExpress. Amazon, qui veut donner plus de transparence, enfin qui donne moins de transparence à ses sellers, mais surtout qui veut donner plus de transparence sur sa marketplace qui se passe. Il y a certaines données que j'ai lues qui montrent que 70% des vendeurs tiers viendraient de la Chine. Donc si tu commences un petit peu à réguler ça ou à limiter les pouvoirs, ou donner surtout pour le consommateur, parce que c'est ça qui est important, le consommateur, tu lui donnes la visibilité sur à qui tu achètes, et si tu te rends compte que tu achètes à l'autre bout du monde, peut-être que ça va avoir un impact. Bon, il y a pas mal de choses qui se tournent autour de Alibaba, et là où il y a quelques années on aurait dit bah c'est un mastodonte, enfin ils vont, c'est un bulldozer, ils vont tout casser sur leur passage, ouais, il y a encore, et bah tu vois, il y a toujours le gouvernement qui peut faire ça. Bah on a parlé d'Amazon il y a deux secondes en France, et bah personne n'est invincible. En tout cas aujourd'hui, ces sociétés, elles sont toujours, doivent toujours se plier aux politiques.
Oui, mais enfin depuis le début, hein, c'est ça se passe comme ça, hein, chez Alibaba. Le Jack Ma, il était ou il est, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Il est quand même membre du Parti communiste. Après, moi, je m'interroge sur, ok, là, c'est une petite sanction mignonnette, on va dire. C'est quoi la suite pour les autres? Donc, je pense que les autres vont rester bien tranquillou, quoi, à suivre. Passe le mic. C'est la rubrique où on donne le mic à un expert. Et cette semaine, on passe le mic à Vincent. Vincent Gauche, qui est le cofondateur de Potion. Potion, c'est la solution e-commerce cookie-less. Désolé, je ne sais pas le dire autrement. Et puis en plus, Vincent, il a choisi le podcast Le Café de l'e-commerce pour nous partager une grosse actu sur sa start-up.
On l'écoute tout de suite parce qu'ils sont en train de révolutionner pas mal de choses sur le secteur. Ils sont en plein dans l'actualité. Donc on écoute Vincent.
Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Passe le mic, nous recevons Vincent de chez Potion. Bonjour Vincent.
Coucou Vincent.
Bonjour Laetitia, bonjour Adrien, bonjour à tous.
Vincent, eh bien déjà, je pense que les félicitations sont de rigueur, puisque Potion vient de changer de nom, donc ça s'appelle Potion.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi déjà, et puis après sur Potion?
Ouais, donc moi, je m'appelle Vincent, je suis cofondateur et head of product chez Potion. Potion, c'est une plateforme de personnalisation de l'UX sur les sites web sans cookies.
Justement, c'est intéressant parce que tu viens de lancer le mot-clé. Chaque semaine, depuis le début du mois, de l'année, on parle de cookies. C'est vraiment étonnant d'entendre qu'on peut faire de la personnalisation sans cookies. J'ai toujours appris, ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'e-commerce, que pour targeter correctement, il faut connaître le client. Pour le connaître, il faut se reposer sur le cookie. Et plus tu targetes, mieux tu targetes et plus tu seras efficace. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire la personnalisation sans cookies? Du coup, vous basez sur quoi?
Effectivement, tous les modèles de personnalisation qui ont été lancés quand c'était la grande mode entre les années 2000 et 2010, ils se sont fondés sur le cookie, parce que le cookie, c'était un moyen d'extraire de la donnée depuis l'endroit où elle était créée, c'est-à-dire sur le navigateur des internautes, vers des bases de données centralisées que les gens arrivaient bien à maîtriser, c'est-à-dire on était dans un univers ou dans un environnement dans lequel la donnée était très structurée, très maîtrisée. J'avais une ligne par visite ou par visiteur avec tout ce qui s'était passé sur ce visiteur-là, et j'étais capable du coup de faire tourner des modèles sur ces grosses bases de données centralisées. Et c'est en fait ces bases de données-là qu'ont utilisé tous les acteurs de la personnalisation, qu'elles soient sur la personnalisation en termes d'acquisition de trafic, donc là on est vraiment sur la personnalisation publicitaire, la personnalisation on-site, ou bien la personnalisation, on va dire, multicanal. Voilà. Donc, à l'heure où on sait que les cookies tiers sont en train de vivre leur dernier moment, se posent enfin les questions de comment est-ce qu'on peut personnaliser quand même l'expérience sur le web, mais sans avoir besoin d'extraire la donnée. Et il y a tout un tas de modèles qui sont utilisés dans d'autres secteurs qui permettent de travailler sur des bases de données décentralisées. En fait, c'est ça qu'on est en train d'essayer de construire avec Potion.
Mais la base de données décentralisée, ça veut dire tout de même qu'il faut que tu collectes des informations sur l'utilisateur, ou que tu le mettes dans un groupe, non?
Alors nous, on collecte rien du tout. Il n'y a aucune donnée sur les utilisateurs, en tout cas pour la partie qui est de données qui est utilisée par notre code, hein, sur les serveurs de nos clients. Tout est enregistré et stocké en local, c'est-à-dire dans le navigateur, dans des bases de données qui s'appellent IndexedDB, qui sont les bases de données les plus évoluées mises à dispo par tous les navigateurs, et sur lesquelles, en fait, on peut stocker l'information sans avoir besoin de l'extraire. Et le challenge derrière, c'est comment est-ce que tu analyses cette information qui, au lieu d'être stockée à un seul endroit chez toi et où tu la maîtrises complètement, elle est stockée, elle est distribuée en fait sur tous les navigateurs de tous les internautes qui passent sur ton site.
Pour les marques, pour une marque typique, c'est quoi le challenge qui est en train d'arriver? Est-ce qu'elles sont prêtes déjà à l'arrêt des cookies ou est-ce que tu penses que les outils, de façon, déjà les stats, elles sont toutes pourries, ils s'en rendent même pas compte, mais ils vivent avec? Ça va être quoi l'impact?
Alors, l'arrêt du cookie, déjà, il faut voir, faut comprendre que l'arrêt du cookie, ça va commencer par l'arrêt des cookies tiers. Donc, en fait, les cookies first, qui sont hébergés sur les domaines du site sur lequel tu es en train de naviguer, ceux-là, ils sont pas du tout interdits par défaut par les navigateurs. Et, ils ont encore un peu plus de vie devant eux. Le challenge, en fait, avec l'arrêt du cookie, c'est essentiellement, le cookie tiers, ce qui permet de faire, comme le pixel Facebook, ou le cookie de Google, c'est de suivre un internaute d'un site à l'autre. D'accord. Donc, ce que permet de faire ce cookie, c'est de se dire, de créer des profils, et notamment de navigation, mais aussi des profils en fonction d'informations individuelles, être capable de catégoriser les gens, c'est une femme, c'est un homme, il entre telle ou telle catégorie d'âge, etc., etc., en fonction de ce qu'il fait sur tous les sites qu'il visite. Et c'est ça qui permettait de faire le cookie tiers. C'est pas forcément un drame de pas avoir cette information a priori. Nous, ce qu'on pense chez Potion, c'est que quand une personne vient sur ton site, elle partage déjà avec toi beaucoup d'informations que tu n'étais pas capable ou que, en tout cas, tu n'essayais pas d'utiliser aujourd'hui parce que tu te basais sur tes cookies tiers. En fait, ce que les gens font chez toi, sur ta plateforme, sur ton site, c'est déjà beaucoup de choses que tu es capable d'analyser sans avoir besoin, comme on le disait, de s'appuyer sur des fournisseurs tiers pour stocker et analyser de l'information, y compris en l'agrégeant avec ce qui s'était passé sur les sites d'où ils viennent et les sites où ils vont aller ensuite.
Est-ce que à haut niveau, un peu votre approche qui se repose plus sur le cookie, donc en plus de l'historisation et d'autres navigations qui sont en dehors de ton site, ça repose un peu sur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un cookie dynamique ou en tout cas l'analyse en temps réel du comportement, et plus il va interagir avec la marque, avec le site, plus tu le connaîtras, c'est ça philosophiquement?
Exactement. Donc en fait, nous on voit plutôt ce passage au cookie-less ou en tout cas au sans cookie tiers, on le voit plutôt comme une opportunité pour les sites pour reprendre le contrôle sur la donnée et sur ce que font les gens sur leur site. C'est complètement absurde, si tu veux, d'aller demander à Google si cette personne est intéressée par tel ou tel type de voiture quand il vient chez toi, alors qu'en fait il est déjà venu chez toi, il a déjà regardé des voitures électriques et donc tu sais qu'il est intéressé par des voitures électriques, t'as pas besoin de demander à Google.
Vincent, là, tout ce que tu nous expliques, enfin oui, c'est assez clair. Ça me paraît logique, mais je me dis, les marques, quand tu vas les voir, tu les secoues, tu les bouscules, elles en ont conscience, elles te disent, mais oui, c'est exactement ça, ou alors, attends, faut que je digère, et laisse-moi revenir vers toi, parce que c'est pas du tout ce que j'avais en tête depuis des années.
Non, il y a un gros sujet de digestion, mais il y a aussi beaucoup d'appétence parce que nous, cette contrainte qu'on s'est donnée de faire du cookie-less, parce que on est un peu des tarés chez Potion, on cherche à construire un internet qui fonctionne complètement différemment, avec justement que des bases de données décentralisées, aucune extraction de data sur aucun site, des sites sans serveur en fait. On voudrait faire un site quasiment sans serveur. Un site, ça pourrait être une ligne de code. Bon, et ensuite c'est dans le navigateur que vont se passer les choses. Ça, c'est ce qu'on va faire dans 50 ans. Et quand tu expliques ça aux gens, ils disent ouais, enfin c'était sympa, mais moi, j'organise pas ça avec toi, tu te débrouilles. Mais en revanche, là où ils voient une opportunité, c'est que, là où il y a des opportunités qui sont liées à ça, c'est que comme il n'y a pas de serveur, pas de base de données centralisée à construire ni à maintenir, en fait, j'ai pas besoin d'interagir avec le back du site, ça revient un peu techno, j'ai pas besoin d'interagir avec le back, et donc c'est très très simple à déployer. Et donc on est capable de leur dire, vous avez une solution de personnalisation qui marche très bien ou qui marche moyennement, cookie-based, sur laquelle vous avez passé des mois à intégrer, vous avez payé des consultants, vous avez encore aujourd'hui des gens qui travaillent 24 heures, enfin pas 24 heures sur 24, mais qui travaillent toute la semaine pour manager cette plateforme-là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre en A/B test contre votre solution actuelle, notre solution qui va être installée avec une ligne de code pour laquelle vous n'avez rien à gérer et qui va tourner tout seul et sans avoir besoin de maintenir de base de données, sans développement ni sur votre front ni sur votre back, etc. Et c'est comme ça qu'on convainc en fait, c'est qu'on leur dit, mais je sais que ça semble compliqué, mais en fait ça va être très simple à tester.
Et je me souviens qu'il y avait la technique de fingerprinting, tu récupères toutes les métadonnées, etc. Et puis tu peux y associer un ID, ça n'a jamais vraiment décollé, ou sauf si je suis pas, enfin c'est toi l'expert là-dedans. Mais en fait, on pourrait même imaginer qu'il y a une centaine de caractéristiques, même lorsqu'il arrive sur le site, que tu pourrais utiliser. Et du coup, ma deuxième question, c'est de l'autre côté, comment est-ce que tu crées les règles de personnalisation? Parce que du coup, c'est monstrueux le nombre de propriétés que tu pourras avoir sur les clients et comment tu pourrais les profiler.
Ouais, tout à fait. Donc, du coup, sur le fingerprinting ou bien ce que tu peux récupérer déjà, effectivement, il y a beaucoup de choses. Nous, on fait pas de fingerprinting comme tu l'imagines, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments contextuels que tu connais. Quand une personne arrive sur ton site, tu sais si elle vient en cliquant sur un lien, tu sais de quel lien elle vient. Tu sais sur quelle page elle arrive. Tout le monde n'arrive pas sur la homepage. Il y a beaucoup de gens qui arrivent sur certaines catégories de pages. Ils ont fait une recherche dans Google, ils arrivent sur telle ou telle catégorie de page, etc. Donc, t'as déjà cette information là qui est intéressante. Et sans avoir besoin même de te baser sur le fingerprinting, sur l'affichage, la pixelisation, les métadonnées, le machin, etc. Tout est créé sur la base d'intelligence artificielle. Nous, on fait de l'intelligence artificielle, enfin, on fait pas de l'intelligence artificielle pour en faire, on fait plutôt de l'algorithmie relativement simple, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses très très simples qui fonctionnent très très bien et qui sont aujourd'hui pas à disposition de la plupart des sites de e-commerce. Et donc, des choses très très simples comme se baser sur l'information qui a été partagé lors des précédentes visites pour comprendre qu'une personne est intéressée par tel ou tel produit, c'est ce que fait Amazon. Il te montre toujours 5 catégories. Voilà les derniers produits que tu as vus. Voilà les produits qui intéressent les autres personnes qui ont vu les mêmes produits. Voilà les promos du moment dans les catégories de produits qui t'intéressent. C'est méga simple en fait. Sauf que c'est pas à disposition de tout le monde. C'est difficile à mettre en œuvre. Et notamment, c'est difficile à mettre en œuvre si tu cherches à le faire avec des cookies. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition. Enfin, ce que Potion fait, c'est qu'on met ça, cette expérience de navigation là, à disposition de tous les users.
Et justement, du coup, vous avez une approche qui est différente par rapport aux autres outils du marché parce que le cookie tiers est en train de disparaître. Donc, pour le coup, vous êtes super safe et c'est une opportunité pour vous. Est-ce qu'il y a un ROI ou en tout cas, quand tu A/B testes les deux approches, est-ce qu'il y a un vrai impact derrière entre une solution qui ne repose pas sur le cookie tiers? Je vois l'intérêt parce que de toute façon, les cookie tiers vont disparaître. Mais est-ce qu'ensuite, il y a un autre intérêt qu'on n'imagine pas?
Alors, il y a un autre intérêt. En A/B test, quand il y a une solution vraiment blindée qui en face de nous, on va avoir typiquement le même type de produit mis en avant, le même type de recommandation. En revanche, on va s'afficher beaucoup plus vite parce que pas de requête, pas d'aller-retour vers les serveurs. Donc, on va battre les recommandations en général de 5, parfois même 10% quand il y a des recommandations préexistantes, notamment sur la vitesse d'affichage et la performance du site. En fait, on pourrit pas la performance du site.
Vincent, tu as l'air d'avoir une vision du e-commerce qui t'est bien propre, je trouve, en tout cas, dans ce que tu dis. Pour toi, c'est quoi le e-commerce de demain? C'est du cookie-less, c'est du headless, c'est du no-code. Plusieurs fois, tu as fait référence à ça.
Donc, le e-commerce de demain, c'est du no-code. Pourquoi? Moi, je pense pas, alors c'est peut-être une vision, il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec ça. Je pense pas que les e-commerçants, notamment les petits commerçants, ou voir les entreprises qui vendent du service ou des produits en B2B, je pense pas que tout le monde va finir sur Amazon. C'est-à-dire que Amazon, bien sûr, continuera de prendre des parts de marché ou a déjà pris d'énormes parts de marché, mais il y a des sites qui sont des univers protégés, qui vont continuer d'exister, notamment pour faire vivre des marques et faire vivre des univers propres. Et ces sites-là, en fait, ils ont besoin d'être de plus en plus simples à mettre en ligne. Et pour ça, il faut du no-code. Comme tu l'as dit, il faut du no-code, c'est-à-dire au-delà du CMS, il faut être capable. Tu peux utiliser WordPress ou Shopify, donc c'est génial. Mais il faut être capable, en tout cas, de mettre en ligne ton site no-code et être capable de personnaliser no-code. Parce que si tu n'as pas un niveau d'expérience ou de personnalisation d'expérience similaire à ce que propose Amazon, tu es aussi pénalisé par ça. Voilà. Donc il faut la propulsion du site et des outils de personnalisation qui vont avec, et ensuite tout ce qui touche à l'expérience d'achat. Moi j'adore votre émission, donc du coup je pense à notamment sur l'expérience d'achat, le paiement en 3 fois ou en plusieurs fois, sur la traduction du site que vous aviez récemment. Comment est-ce qu'on met à disposition ça des plus petits e-commerçants pour qu'ils puissent être au niveau en fait des gros?
Vincent, est-ce que tu entends ça?
Oui.
Alors, c'est le moment de l'e-com roulette. Alors, l'e-com roulette, c'est notre petit jeu. On va lancer la roulette et tu vas nous dire stop quand tu veux et on va regarder où est-ce que ça s'arrête. Alors, vas-y, quand tu veux, tu nous dis stop.
Stop.
Alors, l'e-com roulette, elle tourne et elle s'arrête sur Urban Legend. Alors, l'Urban Legend, c'est quelle est l'idée reçue, la légende urbaine dans ton secteur que tu combats le plus ou qui t'énerve le plus?
L'idée reçue, et ça vous demande à 90% des gens dans la rue, que je combats, c'est que les sites ne fonctionnent pas quand on refuse les cookies.
Bien vu.
Voilà. Bon, je suis désolé, je suis resté dans mon thème, mais j'en reviens pas le nombre de gens qui te disent « mais de toute façon, je peux pas refuser parce que sinon, j'ai pas accès au site ».
Mais ça, c'est, ouais. Moi, je dirais, c'est moins la faute des gens et plus la faute des sites. et on avait parlé de dark pattern, etc. Et tu vois, c'est comment tu le présentes, donc comme quoi ils ont réussi leur taf, quoi, malheureusement.
Ouais. Vincent, on arrive doucement mais sûrement vers la conclusion. Écoute, qu'est-ce que tu peux nous annoncer encore comme très belle nouvelle en conclusion?
Ouais, écoutez, c'est le moment de vous faire une annonce en exclu.
Exclu le café de l'e-commerce.
Exclu le café de l'e-commerce. On va annoncer dans les jours qui viennent une levée de fonds, c'est notre première. Donc Potion a levé un peu plus d'1 million d'euros pour se structurer, beaucoup recruter et puis contribuer à mettre en place cette vision et à construire ce web complètement différent. Et on espère que dans 50 ans, on aura toujours Potion qui sera là pour pousser un web respectueux de la vie privée et respectueux de l'environnement.
Super, bravo, félicitations, bravo, bravo, bravo.
Bravo Vincent et à toute l'équipe.
Merci beaucoup.
Vous revenez au micro quand vous êtes... Non, même avant d'être une licorne.
Ouais, mais comme quoi, quand vous nous avez contactés, on avait senti qu'il y avait... C'était une petite pépite, donc on est heureux pour vous. Vincent, comment on fait pour te contacter, pour aller plus loin, pour en savoir plus?
Pour me contacter, c'est super simple. Vous me trouvez sur LinkedIn ou sinon, vous visitez notre site. Et il y a partout un formulaire de contact à n'importe quel endroit du site.
Super. On va mettre tous les liens dans les notes de l'émission. On vous souhaite encore bon courage avec cette levée et au plaisir de te retrouver très vite au micro. Au revoir, Vincent.
Bravo Potion, à bientôt.
Merci beaucoup.
Alors, nous vous invitons à aller sur le site de Potion. Donc, ça s'appelle Get Potions en français, en anglais. Bon, voilà. Allez sur Get Potions. Et puis, vous allez voir, il y a un webinar qui est organisé justement sur tout ce qui est autour du cookieless. Et ils ont invité un de leurs clients qui s'appelle Alltricks. Donc, je suis sûre qu'Alexandre, là, dans le chat, il va connaître Alltricks, qui va discuter de la mise en place du cookieless sur leur site et comment est-ce que ça a augmenté de 7% leur panier moyen. Voilà, allez-y, inscrivez-vous et ça a lieu le 6 mai prochain.
On met tous les liens dans les notes de l'émission.
Allez, on y va, c'est parti, Reco Micro. Au micro, on fait notre reco, écoutez-la, illico presto. Adrien, il veut faire une reco et la jolie, mes deux amours.
Ah. Ouais, mais je fais exprès de tomber. En fait, on a des notes et je fais exprès d'embrouiller les tiges, mais n'importe quoi. Des fois, je mets des choses qui sont what the fuck, elles le découvrent et donc ça me fait marrer.
Là, je découvre mes deux
et,
amours.
Je voulais juste mettre mes deux amours, j'aurais pas dû mettre ce qui est vert. En fait, dans l'e-commerce, donc l'e-commerce c'est très 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 vaste, très large, et j'ai deux amours tout simplement qui me tiennent à cœur parce que c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. C'est le SEO et l'analytics, la data. Donc à chaque fois qu'il y a des choses, des actualités qui autour de ça, j'ai toujours mon petit côté qui va aller regarder ce qui se passe, même si je suis ça de loin maintenant, ça m'intéresse toujours. Et ma recommandation, donc c'est un article qui s'appelle 10 idées reçues sur le SEO que je vous invite à regarder. Alors c'est un article qui reprend un livre d'Olivier Andrieux qui est très connu dans le monde du référencement naturel en France, et l'article se lit facilement. Si ça vous intéresse, vous pourrez ensuite acheter le bouquin. J'étais surpris parce que souvent quand tu lis ces articles, enfin je me considère comme connaissant relativement bien le SEO, et finalement il y avait des choses, des mythes justement qui debunk, ou sur lesquels je serais prêt à débattre, tu vois, j'ai appris des choses, quoi. Je t'en donne quelques-uns. Alors, je vous invite à regarder l'article. Le premier, c'est, bon, ça on le savait plus tôt, mais c'est le duplicate content, donc le contenu dupliqué qui ne pénalise pas, qui pénaliserait Google. Qui serait pénalisé par Google, je vais y arriver. Donc ça, c'est un mythe. Et à l'âge des réseaux sociaux où le contenu est repris, etc. Ça y est, Google, il sait faire la différence. Il sait identifier la source, ou en tout cas, ça n'a pas d'impact de pénalité. Les clics et le comportement utilisateur sur les SERP, donc c'est les pages de résultats de recherche, j'étais convaincu. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça, que lorsque tu as tes résultats, si tu cliques sur le premier résultat et que tu reviens tout de suite derrière et que tu vas sur le deuxième, Google interprète ça comme le premier résultat n'est pas bon. Et donc, on va optimiser le positionnement pour avoir juste des personnes qui cliquent dessus. Et c'est lié également au mythe numéro 3, qui est le taux de rebond, qui est regarder combien de personnes vont aller cliquer sur quelque chose et revenir en arrière pour aller chercher quelque chose d'autre, quoi. Donc voilà, j'en ai listé 2-3. Il y en a d'autres qui sont très intéressants et je vous invite à découvrir l'article et à vous procurer le bouquin s'il vous intéresse. Laetitia, qu'est-ce que tu avais pour nous, un autre bouquin, parce que tu es une intello?
Non, là, pas du tout. Là,
je suis dans les clichés, tu sais.
Ouais, non, mais ça ne me dérange pas, moi. Tu sais, je portais des lunettes à l'école et j'étais au premier rang. Ça ne me dérange pas. et ben du coup, voilà, l'intello, elle aime bien rigoler aussi. Et je voulais vous parler de Karim Duval. Karim Duval, c'est le start-upper humoriste. Alors, avec Adrien, maintes et maintes fois, on a essayé d'aller le voir, mais à chaque fois, c'était annulé et c'était reporté. Mais vraiment, je vous invite à aller déjà sur son site. D'ailleurs, Karim, si tu nous écoutes, ton site est un peu pourri. Hein. C'est un WordPress un peu dégueulasse. Donc, si tu peux remanier ça, nous faire un Wix vite fait, bien fait, ce serait top. Et Karim, bah, en fait, il se moque un peu de nous, Adrien, quoi. Nous, dans notre univers de start-upper, de start-up nation. Et il me fait vraiment rire parce qu'il arrive à employer tous nos termes de manière... je ne saurais même pas expliquer comment, mais...
Après, tous les sketchs ne se valent pas. Il y en a quelques-uns, justement.
Non, pour moi, ils sont tous excellents.
Okay. Bah, moi, j'aimais bien ceux qui étaient au début, l'année dernière, quand c'était des choses plutôt dans le monde d'entreprise. Et ensuite, il s'est ouvert à d'autres choses.
Oui, il s'est ouvert à l'actualité sur le Covid, voilà, des choses comme ça. Mais il y a quand même un fil conducteur. Donc vraiment, allez regarder Karim Duval sur YouTube et puis aussi sur son site. Et puis pour le soutenir, et bien, réservez vos places quand ça rouvrira. Voilà.
Merci, Laetitia.
Hey, c'est le panier surprise! Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on s'étend, on s'amuse, on rigole! Le maître du jeu, c'est Adrien ou c'est moi? Là, ça va être Adrien pour un jeu et puis après, ce sera moi pour deux jeux! Adrien, qu'est-ce que tu nous as prévu?
Je t'ai préparé un confadonf. Donc, le confadonf, c'est quoi? Eh bien, on prend une conf, on prend une conf, on regarde un petit peu les conférences.
Et alors, une conférence pour un événement digital, du coup.
Voilà, un événement digital. Et puis, on regarde un petit peu les confs et je te fais deviner un petit peu de quoi il s'agit. C'est un peu confus, la règle, mais vous allez tous comprendre et tout le monde va pouvoir participer.
Il faut que je devine le thème ou il faut que je devine l'entreprise?
Justement, tout change. Je vais vous l'expliquer. Donc, l'événement dont on parle, c'est Marketing Week. Vous avez le lien, c'est marketingweek.fr. Vous pouvez regarder. C'est une conférence qui se déroule du 4 au 7 mai 2021, donc dans quelques semaines. Elle se déroule sur 4 jours autour de Customer Experience, Retail, donc là, tu as des indices data et personnalisation et social media. Maintenant, j'ai pris 3 conférences. Toutes les propositions que je te donne, j'ai corsé un petit peu le jeu, en tout cas, corsé pour moi, donc c'est plus fun pour toi. Toutes les réponses, elles sont possibles parce que ce sont des participants qui sont dans ce salon. Donc, je vais te donner le nom de la conférence et tu vas essayer de me trouver de qui il s'agit, qui parle de ça dans cette conférence. Et si tu le trouves, c'est génial. Sinon, je te donne 3 options. C'est encore confus, mais vous allez tout de suite comprendre. Première conférence. Comment déployer une approche expérientielle au service de l'amour en temps de pandémie? Est-ce que tu sais qui pourrait parler de ça?
Une approche expérientielle au service de l'amour
en temps de pandémie.
Bon, là, j'ai envie de dire Tinder.
Ok, alors je te donne 3 options. Donc non, tu n'as pas la bonne réponse. Okay. Je te donne 3 options. Numéro 1, Adopte Parfum. Numéro 2, Badou. Numéro 3, Mano Mano.
Badou.
Réfléchis bien, il y a des pièges.
Il y a un piège.
Ah, je sais pas, non, mais vas-y, donne ta réponse. C'est Badou?
T'as envie de mettre non, là, je vois, t'es
content.
Non.
Alors, vas-y.
Attends, répète les soleils.
Comment déployer une approche expérientielle au service de l'amour en temps de crise? Adopte Parfum, Badou, Mano Mano.
Je connais même pas Adopte Parfum, c'est une agence, c'est qui ça?
Ah, justement, je te dis pas. Alors
Adopte. Bon, vas-y, j'ai envie de dire Adopte, mais je vois pas ce qu'il foutrait là-dedans.
Tu dis Adopte Parfum?
Non, pas Adopte, Badou.
Badou. C'est une bonne réponse. Bravo.
Il m'a mis le doute.
Non, j'ai commencé avec un facile. Adopte Parfum, c'est parfum en ligne français. Badou, site de rencontre. Et Mano Mano, bricolage. Allez, on commence avec le un peu plus dur. Celui-ci m'a fait marrer. Commerce Planning, la brique qui manquait au Media Planning. 9 mots, 4 mots anglais.
Mais je comprends rien.
Dont 2 qui ne veulent rien dire.
Commerce Planning.
Commerce Planning, la brique. Il ne faut pas trop se moquer.
Bah, oh, parce qu'en réalité, on le dira dans 2 semaines, ce mot-là.
Ouais, Commerce Planning, la brique. Non, ça n'existe pas, Commerce Planning. Je l'ai googlé, c'est, okay. C'est juste amusant. Mais bon, c'est la difficulté de faire des titres. Donc, est-ce que tu vois de quoi il s'agit? Commerce Planning, la brique qui manquait au Media Planning.
Comment est-ce que tu mets de l'e-commerce dans ton plan média?
Ouais, mais qui
j'essaie de traduire. Okay. Qui a pu dire ça, Commerce Planning? Non. Bon, c'est une agence, je ne sais pas, vas-y, dis.
Eh bien, il s'agit de 3 propositions.
Oui,
numéro 1, Criteo Retargeting. Alors, je vais te dire ce qu'ils font, ça sera plus facile. Criteo Retargeting, Twilio, plateforme de communication ou Fivetran, intégration de données cloud.
Allez, Twilio. Ah,
la réponse était Criteo pour Retargeting. Et enfin, le dernier, il est un petit peu plus long. Donc, je vais te lire la description, le titre et la description. Vas-y. Et tu vas devoir essayer de deviner. Ensuite, tu auras 3 propositions. L'expérience au cœur de la proposition de valeur des marques ABC. Je vais les appeler ABC, d'accord? Il faut deviner les marques. C'est la même enseigne. C'est sans doute le lieu de l'expérience par excellence. Une expérience qui se doit d'être saillante et différente d'une marque à une autre. La musique, le design d'intérieur et le smart sport sont ainsi 3 univers qui placent l'expérience au cœur de la proposition de valeur des marques ABC. Comment alors, au travers de ces trois univers, l'expérience est devenue le différenciateur de ces marques, mais aussi de leurs vitrines?
Mais je ne sais même pas s'il faut que je fasse là.
Est-ce que tu sais de quelle enseigne
non,
on
pas
parle
du tout.
Non, alors je te donne trois propositions. Fitness Park, chaîne de sport, Caso Art, galerie d'art ou Ibis, chaîne d'hôtel.
Bah, fitness, sport. Je sais pas, t'as parlé de sport au bout d'un moment. Mais j'ai rien compris, j'ai essayé de comprendre.
Ah, c'était peut-être un peu plus dur celui-ci. Eh bien, écoute.
Comprends rien ton énoncé.
Non, mais justement, je t'ai dit le titre plus la description. OK. Et eh bien, en fait, ce qui me faisait marrer, donc la bonne réponse, c'était Ibis, chaîne d'hôtel. Et quand tu lis la description, tu as l'impression d'être dans un truc très expérientiel, luxueux, ouais, avec des vitrines, etc., qui reprennent les codes. Et tu regardes ce qu'il y a derrière, c'est Ibis. Donc, c'est assez amusant. Bon, finalement.
Pour toi, amusant.
Ouais, je crois que je suis le seul à me marrer.
C'était solo.
Bon, tu vas prendre ta revanche, Laetitia, maintenant. C'est à toi. Tu nous as préparé quoi?
Ouais, ben moi j'ai préparé deux cupucs. On y va, c'est parti. Donc, je vais te donner la description, la définition d'une marque, d'une enseigne, okay, de quelqu'un, qui tu veux, et à toi de deviner. Allez, on est parti. Créée en 1993, l'enseigne est d'origine néerlandaise. Présente aux Pays-Bas, en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, en Pologne, en République tchèque, à travers plus de 1750 magasins. Cette marque est arrivée en France en 2012, dans les Hauts-de-France d'abord, logique, hein. Pays-Bas, ça descend tout de suite, ça arrive dans le nord. L'enseigne ouvre son premier centre de distribution en Île-de-France en 2016. Sur stock, marchandises, entreprises en faillite ou encore invendues, l'enseigne se positionne principalement sur des produits non périssables.
Ah, non, c'est pas Action, non? Non.
Mais il l'a.
Attends, tu sais pourquoi? Je connaissais pas du tout, c'est parce qu'on en a parlé
parce
il y a quelques
qu'on
jours.
En a parlé.
Tu t'es moqué de moi là-dessus, je savais même, je connais. Enfin, ouais, ok. Je l'ai dit vraiment
Action,
au hasard.
C'est plus de 500 magasins en France quand même.
Termine
hein.
La description.
Oui, bon, ils se positionnent sur des articles de déco, des produits d'entretien, mais aussi sur une forte proportion de produits cosmétiques et d'hygiène. Et j'ai lu un article qui disait qu'Action, le dernier quarter, c'était la principale enseigne pour de la cosmétique et de la beauty à petit prix. Bravo!
Merci Laetitia, c'était pas du tout facile. Il y a trois jours, j'aurais jamais deviné.
Mais tu connaissais pas.
Exactement. Alors vas-y, le deuxième cupuc.
Allez, fondée en 1930 par Joseph Schwartz, l'enseigne vendait initialement des fruits exotiques. Après la Seconde Guerre mondiale, l'enseigne se concentre sur le commerce de détail et de l'alimentation générale, qui copie sans complexe son concurrent dont le nom est composé de quatre lettres également. En 2017. Premier
Cora.
Magasin aux USA,
Cora.
Alors que le premier magasin en France débarque en 1989.
Je ne trouvais
pas. En 2016, la marque effectue un tournant marketing stratégique notable. Les magasins sont rénovés, les spots publicitaires sont un peu rigolos.
Ah,
et bientôt...
Tati. Ah bah non, ils ont fermé. Bah non.
C'est surtout pas Joseph Schwartz, Tati.
Et maintenant, tu te moques de mes réponses.
Et bientôt,
okay, je vais faire pareil la prochaine fois.
La marque est hype. Elle propose en 2020 des t-shirts, des claquettes,
ouais,
des baskets,
ouais,
collector.
Alors attends, une seconde. Je le sais parce qu'on en a parlé. Une seconde.
T'as dit Aldi, c'est qui le concurrent quand tu vas en Allemagne, quand t'étais
attends,
à Munich?
Ouais, mais non,
t'as Aldi, t'en as un autre. Ils sont face à face.
Tu vois comment
face,
je ferai la même chose quand ce sera à toi. Je te mettrai la pression
tu
et je mettrai.
Tu m'énerves avec Confadonf là.
Attends, je sais parce que tu devais en marché et on en a parlé. C'est le truc vintage. Quand... Ouais, bah, attends,
ouais, j'en ai parlé souvent. Hein.
Ouais, c'est le... Non, bah, je le vois, mais non, je sais pas.
Tu le vois pas?
Ouais, mais si, je sais parce que
bon,
c'est
Lidl. Allez,
Lidl,
quelqu'un avait trouvé,
bravo,
ou pas? Mais ouais, il y en a qui avaient trouvé.
Dans le chat, tout le monde avait trouvé.
Alors, pourquoi j'ai choisi Action et Lidl? Bah parce que Action et Lidl, il y en a un qui est néerlandais, un autre qui est allemand. Et puis, bah parce qu'ils n'ont pas de site e-commerce. En réalité, ils ont un site où, par exemple, sur Action, vous pouvez faire du click and collect sur une sélection de produits. Tout le catalogue n'est pas présent et surtout n'est pas disponible au click and collect. Et Lidl, c'est pareil. Vous avez la sélection de la semaine, vous avez les catalogues, mais rien n'est disponible en e-commerce. Et pourtant, bah, ça reste des acteurs... assez incontournable.
Merci Laetitia et bravo.
De rien. Merci à vous qui avez trouvé. Et Confadon, c'est fini. Hein. Et bah merci. Merci à vous dans le chat. Merci à vous les auditeurs et les auditrices. Merci à toi Adrien. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. Pour trouver les références de cet épisode, et bien c'est toujours dans les notes de l'émission et sur le site lecafédecommerce.fr. Laissez-nous 5 étoiles.
Ouais, des commentaires, vous partagez l'épisode, vous likez sur LinkedIn la page et les posts, et puis vous nous contactez s'il y a quoi que ce soit. On se dit à très bientôt, et puis merci à vous, merci Laetitia.
Salut!
Au revoir.
Je te dis, c'est une graine qui donne de l'huile. Tournesol, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi.